Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir pour cette émission Club de la Presse. Nous sommes au jeudi 3 octobre 2024. Il sont 11h, passées de quelques secondes sur votre radio La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir pour ce 4e numéro de l'émission Club de la Presse. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou Vitok Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Merci fraternel ou salutations fraternelles à vous tous alors qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. C'est un plaisir pour nous de vous savoir aussi très nombreux sur, dans le monde entier à nous suivre, bien sûr. Et c'est grâce à nos différentes plateformes digitales. Tout d'abord, nous avons notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités, confrères journalistes, Michel Yaou Tchadja, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à l'invité, bonjour aux confrères et surtout bonjour Canal FM.
D'accord, j'espère que vous allez bien.
Oh, par la grâce de Dieu, on a espoir.
C'est l'essentiel.
Oui.
Quand on vit, on a toujours l'espoir.
Ça, c'est clair.
C'est très important. Oui. Alors, Jean Polérini, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour à l'invité et bonjour également aux techniciens derrière la baie vitrée. Mes salutations à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur Canal FM. Permettez-moi, à l'entame de l'émission, de présenter mes condoléances à toutes les personnes victimes de terrorisme au Grand Nord. On apprend régulièrement qu'il y a toujours des incursions, même s'il n'y a pas de communication officielle. C'est le lieu pour nous de véritablement compatir avec les populations du Grand Nord. Vous savez, nous sommes à Lomé, nous avons la paix, nous sommes libres de nos mouvements. Mais quand vous êtes au Grand Nord, vraiment ceux qui sont dans les villages vers la frontière, ma foi, ce n'est pas facile. Parce que nous sommes dans une guerre asymétrique que nous imposent ces hommes sans foi ni loi. C'est-à-dire que vous ne savez pas à quel moment ces hommes vont vous attaquer. Et donc, ça amène vraiment à beaucoup anticiper. Et vraiment, je recommande encore notre pays entre les mains de Dieu. Parce que, quel que soit ce que nous prévoyons, vous ne pouvez pas savoir ou tenter à quel moment l'adversaire va frapper. Et compassion, courage, et que la population du Nord, et les FDS en particulier, soit fortifié, nous sommes de cœur avec eux dans ce combat qui nous engage tous.
D'accord, nous sommes de cœur avec eux dans ce combat qui nous engage tous. Merci beaucoup d'avoir placé ce mot, c'est important. Magloire Kinviteko, bonjour.
Bonjour à toi Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Ça va tranquille par la grâce de Dieu.
C'est l'essentiel.
Ah ouais.
D'accord. Ambroise Pondio, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour les Togolais qui nous suivent de l'intérieur que de l'extérieur. Je voudrais profiter pour envoyer ce message au taximen, à ceux qui transportent les enfants. Vous allez voir à la une, nous avons écrit chers usagers, cédez le passage aux enfants qui traversent la chaussée. Parce qu'il y a des cas d'accidents qui commencent déjà à se produire sur les lignes, les chaussées, les grandes routes là. Et surtout, il y a un autre phénomène, les taximen qui prennent les gens pour aller à Palimé. Tu dis tu vas à Palimé, on te prend ici devant le site technique ou à Madiba. On te dépose à Zangou, comme quoi, bon, moi je m'arrête ici, je vais te trouver un autre. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ça, c'est un des deux. Les enfants viennent de partout pour venir dans les lycées au niveau d'Aïdo Gomé. C'est l'exemple que je donne. Les enfants du site technique sont nombreux. Ils quittent pour aller à Kato, d'autres vont à Zangera. On les prend, on les dépose à Ségbé. Ceux qui sont à Kato sont laissés. Il faut continuer. Donne-moi deux ça, il faut continuer. L'enfant déambule le bord de la route avec le risque d'être tamponné par les motocyclistes. Donc que les taximens arrêtent ça.
D'accord, merci beaucoup Ambroise, et merci cher confrère d'avoir répondu à notre invitation. Et donc je parlais d'invités tout de suite. Nous allons commencer cette émission avec bien sûr la question de médecins vétérinaires, puisqu'il y a une assemblée générale qui est un projet. Et donc docteur Kossi Mabalo est avec nous. Docteur, bonjour.
Bonjour monsieur Pascal.
J'espère que vous allez bien docteur.
Je vais très bien.
Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires du Togo.
C'est exact.
D'accord. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on parle alors de l'Ordre National, alors des Médecins Vétérinaires du Togo, ou quand on parle alors de médecins vétérinaires, c'est vrai que vous n'êtes pas toujours sur les médias pour s'expliquer sur votre métier, sur votre fonction. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est quand on parle de médecins vétérinaires?
D'accord. Quand on parle de médecin vétérinaire terre à terre, donc c'est un professionnel de la santé animale. Mais il va au-delà, c'est-à-dire que le médecin vétérinaire s'occupe de la santé animale et du bien-être animal. Il s'occupe également de la santé publique. Souvent, quand on parle de santé publique, les gens ne comprennent pas exactement ce que c'est. C'est que le vétérinaire lutte contre les zoonoses, c'est-à-dire que les maladies qui passent des animaux à l'homme, hein, exemple de la rage par exemple, pour que l'homme ne se contamine pas. Donc c'est un agent de santé publique. Mais le vétérinaire s'occupe également de la sécurité sanitaire des aliments. Donc il s'occupe de la qualité de l'aliment depuis l'étable à la table, du champ à l'assiette, comme on a l'habitude de le dire, de la fourchette, de la fourche à la fourchette. Donc vraiment le vétérinaire, une fois vous avez peut-être vu quand on fait les inspections des viandes, donc c'est le rôle du vétérinaire. Mais le vétérinaire aussi s'occupe de la sécurité alimentaire. Donc c'est un agent de la production animale. Donc il intervient pour une meilleure productivité des animaux avec les technologies animales, l'insémination artificielle, les transferts d'embryons. Donc c'est aussi un spécialiste de la sécurité alimentaire.
Alors, docteur Mabalo, c'est vrai que déjà avec ce développement, j'ai envie de savoir quelle est l'importance même du vétérinaire dans la société.
Le vétérinaire joue un rôle important dans la société. D'abord, je vous ai dit qu'il est le professionnel de la santé animale. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours cherché à vivre avec un animal. Et les animaux tombent malades. Mais si les animaux tombent malades, je pense qu'il faut bien les soigner. Du point de vue économique, je vais vous prendre des maladies comme la peste bovine, pratiquement toutes les maladies virales, quand vous prenez la PPR, la peste des petits ruminants, mais il faut bien un vétérinaire pour protéger votre cheptel, pour que quand la maladie vienne, les animaux ne meurent pas. Donc sans vétérinaire, vous comprendrez que économiquement, vous allez perdre votre cheptel. Je vous ai dit tantôt que le vétérinaire joue un rôle important dans la santé publique, quand vous prenez toutes les maladies zoonotiques, notamment la bruxellose, la rage, la fièvre charbonneuse. Vraiment, il faut le vétérinaire pour pouvoir intervenir. Et le vétérinaire, je vous ai dit qu'il joue un rôle dans la sécurité sanitaire des aliments. Donc, par l'inspection des viandes et tout et tout. Donc, voilà un peu le rôle du vétérinaire. Donc, le vétérinaire joue un rôle important. Il y a même des vétérinaires dans l'armée. Il y a des vétérinaires dans la fonction publique. Il y a des vétérinaires privés, donc qui soignent les animaux, qui font la distribution des médicaments vétérinaires. Donc, on va même en parler, puisque notre thème de demain, c'est les médicaments vétérinaires de qualité au service d'une seule santé.
Et justement, parlons-en. Et puisque c'est de ça qu'il s'agit, je veux bien parler de cette assemblée générale que vous organisez demain. Alors, comment ça va se dérouler et sur quel thème également ça va se plancher?
Voilà. Donc, je crois que j'ai énoncé les couleurs du thème « Les médicaments vétérinaires au service d'une seule santé ». Il faut dire que la libéralisation du médicament vétérinaire est intervenue avec les ajustements structurels dans les années 90. Et quand il y a eu la libéralisation, ça veut dire qu'un vétérinaire pouvait s'installer, donc ouvrir un cabinet et vendre les médicaments vétérinaires. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de médicaments qui circulent, qui sont là, qui circulent, mais qu'il n'y a pas une garantie de qualité de ces médicaments. Donc, il a fallu que notre organisation sous-régionale, l'UMOA, essaie d'harmoniser un peu les législations pharmaceutiques et vétérinaires des États membres. Et cette harmonisation a vu la naissance d'un cadre juridique qui permet aujourd'hui l'homologation des médicaments vétérinaires. Et je pense que cette réforme a commencé dans les années 2006. et l'homologation même a commencé véritablement en 2010. Et aujourd'hui, on est arrivé avec un certain nombre de médicaments qui sont autorisés à circuler dans l'espace humain. Et quand on parle de médicaments vétérinaires autorisés, homologués, c'est des médicaments qui répondent à certains nombres de critères, aux critères de qualité, c'est-à-dire les bonnes pratiques de fabrication et qui définissent les méthodes de conservation et les dates de péremption. Et ce sont des médicaments qui ne sont pas dangereux d'abord à l'utilisateur, à la santé du consommateur, à l'animal et à l'environnement. C'est pour ça que ces médicaments sont véritablement homologués pour le bien-être de l'homme.
Alors, c'est vrai que déjà, vous organisez cette assemblée générale et aussi il y a une campagne contre la rage que vous organisez. Enfin, vous aurez une campagne également contre la rage. Comment la campagne va se dérouler ?
La campagne va se dérouler par la vaccination gratuite des animaux de compagnie. Et entendez par animaux de compagnie tout ce qui est comme chat, chien, singe, parce que vous-même, vous savez que la rage, c'est une zoonose majeure. Et une fois que la rage est déclarée, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, ça conduit inéluctablement vers la mort. Donc, nous organisons cette campagne pour marquer la journée mondiale de lutte contre la rage. Normalement, elle est célébrée le 28 septembre, mais nous allons la célébrer en différé le 5 octobre 2024 dans les cabinets vétérinaires au niveau d'Aditikopé.
D'accord. Alors, pour ce qui concerne l'Assemblée générale, à quoi va-t-on s'attendre, hein, ou du moins ces vétérinaires qui vont participer à la rencontre, quels seront peut-être les résultats attendus ?
Les résultats attendus, c'est que aujourd'hui, nous disposons des médicaments vétérinaires de qualité. Et il y a des dispositions réglementaires qui disent qu'aucun médicament vétérinaire ne doit circuler, hein, que ce soit à titre honoré ou gratuit, si ce produit n'a pas reçu une autorisation de mise sur le marché. Donc, c'est pour sensibiliser les confrères à faire recours uniquement aux médicaments vétérinaires de qualité. Donc, on aura à distribuer les dictionnaires des médicaments vétérinaires. Ces dictionnaires vont être distribués d'abord aux vétérinaires grossistes importateurs qui amènent les médicaments, aux vétérinaires inspecteurs, parce qu'avant d'amener le médicament, il faudrait qu'on se rassure que ce médicament est homologué, et ensuite aux vétérinaires prescripteurs qui doivent normalement prescrire que des médicaments homologué.
Et si vous avez un mot pour clôturer cet entretien, qu'est-ce que vous allez dire peut-être à vos collègues vétérinaires qui vous écoutent et aussi à la population? Parce que entre-temps, j'avais vraiment eu cette envie alors de vous poser la question de savoir quand est-ce qu'on doit consulter un vétérinaire.
Merci beaucoup. On doit consulter un vétérinaire d'abord quand vous avez un animal. Donc, vous devez quand même prendre soin de votre animal. L'animal, c'est un peu comme l'homme, à la différence que, bon, l'animal ne parle pas. Voilà, donc c'est aussi un être vivant qui tombe malade.
Et quand il est malade, on doit sentir.
Voilà, quand il est malade, on doit forcément aller voir le vétérinaire. Et bon, je dirais qu'à l'issue de cette assemblée générale, il faudrait que les vétérinaires n'utilisent uniquement que les médicaments vétérinaires homologués et que vraiment, à l'endroit de la population, qu'elle fasse sortir massivement les animaux pour la vaccination. On ne peut éradiquer la rage que par la vaccination de nos animaux.
D'accord. Merci beaucoup, docteur Kossi Mabalo, d'être passé chez nous. Ça fait toujours plaisir. Nous aurons toujours le temps nécessaire pour parler de votre assemblée, même à l'issue alors de cette assemblée, toutes les recommandations qui sortiront. On aura le temps également d'en parler. Je serai toujours, ce plateau est toujours ouvert à vous pour en parler.
Ce fut un plaisir partagé.
D'accord. Merci beaucoup, docteur. Ça fait toujours plaisir. Alors, oui, mais rapidement, chers confrères, alors, Ambroise, c'est vrai, à la suite même d'ailleurs de cette intervention de docteur Mabalo, vous écrivez également quelque chose dans ce sens, alors sur à la une de votre journal ce matin, des Guadians, et vous écrivez « Concurrence déloyale et livraison illégale de médicaments à l'hôpital de Thiéville, un réseau mafieux de grossistes au cœur du scandale ». Qu'est-ce qui se passe ?
C'est vrai que j'avais déjà touché du doigt un peu ce qui se passe à Thiviers, au niveau de l'hôpital de Thiviers. Il y a une pharmacie qui est dans l'enceinte. Et c'est un problème qui risque de créer même des problèmes aux populations, parce que le problème est à plusieurs niveaux. Niveau financier, certains, avec des intérêts pour certains grossistes qui livrent des médicaments qui, certes, sont homologués, mais qui ne passent pas dans le circuit officiel. Le second volet, c'est le volet social. Vous savez, l'État a créé la CAMEG, la centrale d'achat, pour pouvoir satisfaire ou fournir des médicaments génériques à bon prix ou à vil prix aux populations, parce que nous sommes dans un pays riche, mais les populations sont pauvres. Au point que la situation qui se présente aujourd'hui démontre quand même que les officines publiques ou l'hôpital public ne peut pas avoir certains médicaments, certes, qui sont homologués, mais qui n'est pas de leur portée. Pourquoi je dis ça? L'État, on a investigué, on a compris que l'État a investi beaucoup d'argent pour soulager les populations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les directeurs d'hôpitaux ou des centres de santé publics, ils négocient avec certains grossistes qui sont dans un réseau. Je parlais bien de réseau mafieux, parce que même les gens ne sont pas contents au niveau de l'État. Et ce réseau-là les alimente pour qu'ils puissent prendre des médicaments qui ne doivent pas être vendus dans les hôpitaux publics ou dans les pharmacies publiques et qui, normalement, devaient revenir cher dans les hôpitaux et dans les officines privées. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent les médicaments au même prix, ils reçoivent des grossistes, ce qu'ils ne devaient pas faire, ils devaient être normalement être livrés par la CAMEC seulement. Et maintenant, ils prennent ce qu'on devait livrer aux officines privées, ils prennent ça, ils vendent ça, mais ils ne paient pas de taxes. Il ne peut pas la TVA. Il prélève les taxes, selon ce qu'on a investigué. Il prélève, mais il ne verse pas ça à l'OTR. Ça, c'est un. De deux, quand le patient vient à l'hôpital de Thiviers, par exemple, on lui prescrit une ordonnance parce qu'il a une pathologie. L'État a étudié la pathologie des zones tropicales que nous avons dans la région. Il sait de quelles maladies nous souffrons régulièrement. Il y a les paludismes, il y a peut-être les infections, il y a peut-être aussi les vers, le serpent. Vous imaginez, le CS1000, qui est un médicament breveté, qui ne doit pas se trouver dans les officines publiques, se retrouve là-bas. Alors que le vaccin contre la rage, qui devait se retrouver au niveau des hôpitaux, il n'y en a pas. Vous avez appris les cas qui sont produits dans le Nord. C'est ça l'effort que l'État fait pour que la population soit soulagée. Maintenant, ils s'en foutent de tout ça. Ils négocient avec les grossistes privés, ils reçoivent les médicaments et ils prennent des ristournes, selon nos investigations. Et ça ne s'arrête pas là. Quand le patient vient à l'hôpital, on lui dresse une ordonnance, on lui envoie directement à la pharmacie de l'hôpital public, alors que le médicament là est peut-être à 8 000 francs ou à 6 000 francs, qu'il ne doit pas se retrouver dans les officines publiques. On le dirige vers là-bas, ils achètent. Alors, ça crée un problème. On a parlé de concurrence. Ce n'est même pas là le volet de ce que nous voulons écrire. Les officines qui sont des officines privées, selon la réglementation, qui devaient avoir des médicaments de ces grossistes privés, on les livre et c'est des gens qui doivent avoir un chiffre d'affaires, qui doivent vendre aux populations. Maintenant, quand la personne vient à l'hôpital, il sait qu'il y a déjà une pharmacie là-bas. On les renvoie là-bas, au lieu d'aller à la pharmacie, elle s'arrête ici, au même prix, on prend le médicament. Alors que ceux-là, eux, ils paient des taxes à l'OTR. Ils ont investi des millions pour pouvoir installer la pharmacie. Et en plus, avec cette situation, on peut arriver à un niveau où il y aura une baisse du chiffre d'affaires, les gens seront licenciés et les pharmacies seront fermées. Mais ce n'est pas le volet là qui nous importe. C'est le circuit illicite que l'État n'arrive pas à maîtriser, qui crée des problèmes et qui vient des directeurs des hôpitaux que nous voulons dénoncer. Il faut que le nouveau ministre, c'est son baptême de feu, le nouveau ministre doit mettre son nez dans cette affaire pour démanteler, débusquer et ceux qui sont dans cette filière frauduleuse-là. Parce que ça n'arrange pas. Nous avons contacté l'hôpital de Thiviers, la directrice, qui nous a dit que c'est vrai, ils reçoivent des médicaments de temps en temps, apparemment innocentes, mais elle est la directrice. Elle a dit des choses qui dit effectivement ils reçoivent des médicaments des grossistes. Alors, qu'est-ce que l'État a mis comme commission ou comité pour surveiller le circuit officiel des médicaments qui sont envoyés dans les hôpitaux? Au même moment, il y a des médicaments qui se retrouvent dans la rue. Là, quand même, les médicaments qui n'arrivent plus à arriver, qui n'atterrissent plus dans les hôpitaux publics,
les médicaments deviennent des médicaments avariés et qui sont notés pour compte. Alors que c'est de l'argent, on a investi, l'État a investi. Au même moment, il y a des médicaments qui se retrouvent chez les gens de bord de la route, qui sont abîmés par le soleil, et donc qui sont dangereux pour l'intoxication même de la personne, et qui peuvent créer des problèmes de santé jusqu'à la mort à des populations. Donc nous voulons dénoncer ça. Le moment viendra, on va, vous allez voir à la une, les firmes là dont je parle là. On a les noms, hein. On a les noms.
D'accord.
On va dénoncer les films et ce qu'ils font, on va y revenir.
D'accord, on va y revenir. Alors, Michel, quand on voit déjà ce travail que notre confrère Broise a fait, alors, on comprend tout simplement dans ses explications, hein, tout de suite, on comprend que, alors, l'État est en train alors de faire son travail pour faire des efforts, hein, pour soulager la population. Au même moment, il y a des gens quand même qui sont là pour, qui utilisent alors des circuits qui sont frauduleux.
Ah oui, je ne maîtrise pas tellement ce dossier, mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est vrai, l'État a fait des efforts à des niveaux donnés pour essayer d'aider les populations, mais les hommes étant ce qu'ils sont, c'est ceux qui connaissent bien le fonctionnement donc des dispositifs mis en place par l'État qui essaient de contourner ça pour leur intérêt mesquin. Dans tous les domaines, Ambrose parle de ici c'est les produits pharmaceutiques. Oui, il y en a beaucoup de points de l'administration où certains, le fait même d'être à un niveau social, se permettent vraiment des comportements. Et c'est difficile. C'est difficile parce que à partir du moment où on ne punit pas tellement dans ce pays, on ne punit pas. C'est vraiment la plaie béante. Hein, on ne punit pas. On ne punit pas. C'est ça le problème. Sinon, si on prenait un, on prend deux, on prend trois, mais les autres seraient obligés de rentrer dans les rangs. Vous allez voir, lorsqu'on va mettre la main sur un individu, bon, les coups de fil vont commencer. C'est le protégé de tel, c'est le cousin de tel. Bon, et puis vite fait, l'affaire est close. Ce qui fait que ces problèmes-là, Ambroise, je suis peiné de l'écouter. Se démerder, comme on le dit, mais c'est des choses qui existent. Je ne maîtrise pas très bien. Et peut-être à la sortie, il va encore mieux m'expliquer.
D'accord.
Sinon, dans ces éducations, okay. Je me suis perdu. Mais bon, merci pour l'effort d'essayer de faire comprendre la population comment certains sont dans d'autres circuits différents que ce que l'État a mis en place pour... aider les populations. Peut-être
merci,
nous
merci.
Allons arriver par rapport au riz.
On va en parler.
Voilà.
Magula, c'est vrai que quand on voit ce circuit-là qui est créé par des gens et finalement ça échappe à l'État, alors on a quand même raison de se poser des questions. Comment se fait-il que déjà ce circuit, il y a un circuit frauduleux qui est créé et qui échappe à l'État?
Non, mais je dirais qu'il n'y a pas que dans le secteur de la santé et de la pharmacie que ça existe. Pratiquement dans tous les secteurs vitaux de la nation, il y a toujours de ces nébuleuses, il y a toujours de ces circuits, justement, qui essaient de contourner à chaque fois le circuit officiel. Et ce que le sujet que traite Ambroise aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas le premier à le traiter. La presse l'a toujours évoqué. Sauf que généralement, c'est des gens bien costauds. Si vous fouillez, vous allez vous rendre compte que derrière ces réseaux mafieux, mais c'est des gens aussi bien costauds, très souvent qu'on connaît. Très souvent qu'on connaît. Mais le problème de chez nous, c'est que parfois, c'est un peu comme ce qu'on dit souvent ici, le problème de Apulsia. Mais c'est des gens de bonne volonté, c'est souvent des gens qui maîtrisent leur job, mais on leur donne un cahier de charge et tout, mais ils sont contents au premier jour. Il y a des dossiers, ils démarrent, ils fouillent, mais à un moment donné, on se rend compte que mais celui qui est devant là, peut-être que je suis redevable même à lui. Et c'est ça qui bloque parfois certaines démarches administratives d'aboutir réellement et pour que ça dissuade les gens. À faire certaines pratiques parce que la réalité c'est que ça crée du manque à gagner à l'État. Ça crée du manque à gagner à l'État et lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, je crois qu'il est quand même grand temps parce que l'une des grandes politiques de la République togolaise maintenant, c'est de lutter contre la corruption, c'est de faire la, afin de promouvoir la bonne gouvernance. Et même dans des grands projets ou programmes internationaux auxquels le Togo poursuit, il y a toujours de ces volets-là, promotion de la bonne gouvernance et tout, mais ça passe par là. À un moment donné, il faut arrêter peut-être de considérer des individus au détriment des nations. Moi, je ne serai jamais convaincu, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, que ces réseaux qui trafiquent, enfin, qui font ces trafics de faux médicaments et tout, sont des gens méconnus de l'administration publique. Non. Moi, je suis convaincu qu'on connaît les gens. Mais pourquoi on n'agit pas? C'est là la question. Et donc, moi, tout ceci, c'est pour interpeller les uns les autres. Quand vous bénéficiez de la responsabilité de l'État, on vous missionne, faites le bien. Et après, le Togo, en tant que nation, en jugera. Mais quand vous vous taisez, c'est que vous vous rendez complice de ce qui se passe. Et on parle de la santé publique quand même. Ces faux médicaments qu'on introduit dans le circuit, ce n'est pas que du manque à gagner à l'État, mais ça crée des dommages à l'être humain que nous sommes. Justement. C'est pour cela que la responsabilité de l'État même est engagée. Il faut fouiller, pêcher pour dénicher, comme il a dit, ces gens-là qui font du mal à l'économie nationale et à l'humain que je suis, que tu es et que nous sommes tous.
D'accord. Jean Bollorini, aujourd'hui, il est important quand même de rentrer dans ce circuit qui est peut-être, enfin, un circuit frauduleux pour arriver même à démanteler, même d'ailleurs, ce circuit et punir aussi des gens, c'est ça?
Oui, nous le disons tous les jours. Vous savez, dénoncer certains faits, mais s'arrêter à la dénonciation, on n'a pas encore eu gain de cause. Tant qu'on ne punit pas, tant qu'on ne met pas la main, tant qu'on ne sévit pas sur ces actes délictueux, ma foi, les journalistes feront toujours leur travail, mais rien n'y fera. Vous imaginez tous les dossiers que nous faisons ici. Quand vous sortez, on dit, mais vous êtes venu, vous avez crié à midi là, qu'est-ce qui a changé? C'est des choses qui tendent à décourager, mais nous ne nous décourageons pas. Nous faisons toujours notre travail de veille. Et, il a parlé tantôt des faux médicaments, mais c'est là véritablement la vraie plaie. Et comme quelqu'un l'a tantôt dit, moi j'ai participé à un atelier où il y avait les sommités du monde de la santé, au Togo, l'INAM et la déplète, l'ordre des pharmaciens. Mais ma foi, dans les échanges, c'est là où nous avons appris que sur certains dossiers, il y a des pesanteurs. Et même les premiers responsables n'arrivent pas à débloquer la situation. Ils sont obligés de se taire. C'est dit que quand nous ne donnons pas force à nos textes, c'est sûr à quoi nous allons arriver. Mmh. Il ne sert à rien d'avoir des beaux textes sur papier, mais dans la réalité, les gens sont incapables d'agir. Mais on va continuer par avoir une république où chacun se permet ce qu'il peut avec son pan de pouvoir. Et qui est celui qui paye le plus lourd tribut? C'est le bas peuple. Parce que nous, on n'a pas de force. Le consommateur. Mmh. Et le consommateur subit tout ce qu'il a subi de la part de ces hommes-là, sans foi ni loi. Et même des sociétés, parfois, qui ne respectent pas nos droits. Je suis désolé, mais il va falloir qu'à un moment donné, on rebâtisse véritablement notre société. Parce que moi, je dis qu'en réalité, la société togolaise, elle est malade sur plusieurs points. Plusieurs points. Et il faut qu'on s'assure. Je ne sais pas si on peut dire état généraux de la société, si on peut le dire, mais il va falloir vraiment rebâtir de véritables fondements. Sinon, je ne sais pas quel état nous aurons d'ici quelques années.
D'accord.
À l'allure où, dans chaque secteur, dans chaque domaine, il y a toujours des plaintes, il y a des choses qu'on sait. Mais on sent que ce n'est pas réglé.
D'accord. Et l'homme Mathis Obé nous a rejoint. Et l'homme, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Oui, mais il y a gens qui évoquaient cette plainte des consommateurs dans pratiquement tous les domaines aujourd'hui. Et vous vous intéressez quand même à ce domaine alors de téléphonie mobile, puisque nous en avons parlé le jeudi passé. Vous êtes revenu sur le sujet. Vous écrivez à la une de la Nouvelle Tribune ce matin. Togo Service Timoni, Togocom continue d'anarquer ses clients. Publicité mensongère, rien n'est gratuit sur Timoni. Des frais de dépôt toujours indûment prélevés, l'opérateur fuit ses responsabilités.
Oui, vous savez Pascal, ce sujet, on en a parlé la semaine dernière, on a jugé bon de revenir dessus aujourd'hui parce que dans la foulée de notre publication la semaine dernière, il a plu à Togocom de pouvoir lancer dans la masse ce qu'on appelle justement une fuite de responsabilité avec les éléments de langage, excusez-moi, à la con, parce que justement on attendait mieux d'une boîte qui se respecte et qui respecte sa clientèle. vous prélevez indûment de l'argent sur des dépôts d'argent, d'accord? Vous prélevez, c'est pas que vous vous cachez, on prélève. Même cette semaine, on a fait les opérations de dépôt de timonie. On vous dit que bon, on va vous envoyer 14 970 au lieu de 15 000. On vous prend 15 000 et l'opérateur vous dit on vous prend 30 francs, Togocom prend 33. Et derrière, la boîte ne dit rien. Elle sort un communiqué pour dire que les dépôts d'argent sont gratuits. C'est gratuit ou? Qu'est-ce qui est gratuit? Rien n'est gratuit. Vous dites que c'est gratuit. Plutôt, quand vous allez à Move, quand vous allez dans les services bancaires qui font du mobile money, c'est gratuit les dépôts d'argent. Mais Togocom n'est pas gratuit. Timoney n'est pas gratuit quand on fait un dépôt d'argent. Mais c'est scandaleux. À la limite, on nous explique pourquoi ils prélèvent. C'est tout ce qu'on veut. Et ils nous expliquent jamais pourquoi depuis plusieurs mois, ils prélèvent indûment de l'argent sur les dépôts d'argent. Sur les opérations de dépôt.
Les dépôts.
Et ça, une boîte comme Togocom est incapable de donner une information. J'aime bien quand ils viennent défiler ici sur ce plateau pour parler de leur service. Mais pourquoi ils ne viennent pas expliquer simplement pourquoi ils prélèvent de l'argent? Mais dites-nous, pourquoi? Mais c'est dû à quoi? Ce n'est pas nous qui allons payer les amendes infligées à Togocom par l'ARCEP. Je suis désolé. S'ils veulent se refaire une santé financière pour combler le gap des amendes, mais qu'ils le fassent autrement. Mais qu'ils ne prélèvent pas indûment les gens. 30 francs, 40 francs, 50 francs, 20 francs sur les opérations. Et puis, moi, cette semaine, j'ai refusé de payer. En tout cas, pour les opérations où ils ont dit, bon, au lieu d'envoyer 10 000, on vous prélève 20 francs, vous allez avoir 9 990. Moi, j'ai refusé. Je reprends mon argent, je pars. Il y a plusieurs services. Il y a Flouze, il y a Coris Money. Il y a beaucoup de services digitaux aujourd'hui qui permettent d'envoyer de l'argent. Ce n'est pas que Togocom. Ils peuvent beau dire qu'ils ont le plus d'abonnés. Ce n'est pas un problème. Il faut juste qu'ils expliquent pourquoi. Ils prélèvent indûment de l'argent.
Vous demandez juste des explications.
Oui, mais sinon, c'est de l'arnaque. Mais elle est déjà arnaquée par des individus sans foi ni loi. On va être arnaqué maintenant par l'opérateur même. C'est ce qui se passe. Togocom est en train d'arnaquer ses propres clients. Mais attends, qui n'est pas prélevé sur les opérations de dépôt d'argent? Tout le monde est prélevé. Je sais qu'il y a même des gens à Togocom qui travaillent, qui sont prélevés sur les dépôts d'argent. C'est pas qu'il y a des individus qui sont à part, on dit que vous là, on doit vous prélever des fonds sur votre dépôt d'argent. Et il y a d'autres qui sont dans la boîte qui disent non, eux là, on les identifie, c'est des agents de Togocom. On ne vous prélève pas. Tout le monde est prélevé. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je suis désolé. C'est un sujet sérieux. Et tant qu'on ne nous donnera pas d'explication, on va continuer par faire cette bataille. Parce que ça n'a aucun sens. C'est dommage que l'ARCEP ne peut justement pas se prononcer ouvertement sur le sujet parce qu'il s'agit de services financiers, comme je l'ai dit. Les services financiers ne sont pas régulés par l'ARCEP. L'ARCEP régule plutôt les services électroniques et la qualité des prestations. Mais l'ARCEP peut réagir justement sur la publicité mensongère. Togocom nous ment en disant que les dépôts sont gratuits, alors que les dépôts font l'objet de prélèvements. Si on peut leur infliger une amende en ouvrant une procédure de sanction ou une procédure disciplinaire, ça va nous arranger. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous prenez 30 francs, 20 francs, 10 francs, 50 francs sur des dépôts d'argent. Maintenant, quand le client, lui, veut renvoyer maintenant l'argent, transférer l'argent à un proche, vous prélevez encore. Si le proche va faire un retrait, vous prélevez. Pourtant, vous venez nous dire, ou vous venez donner des arguments, excusez-moi, à la con, pour dire que c'est gratuit. Qu'est-ce qui est gratuit?
Et là, ce que vous évoquez est très important, surtout que ça touche même le quotidien du citoyen, du consommateur. Et nous sommes avec le président de l'une des associations de défense alors des consommateurs, et c'est Emmanuel Sogadi. Docteur, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Alors, et notre confrère l'homme évoque un sérieux problème, et c'est les populations qui sont touchées, les consommateurs, dont vous êtes même d'ailleurs des défenseurs, l'un des défenseurs, j'allais dire. Alors, concrètement, est-ce que vous êtes au courant alors de ce qui se passe et ce prélèvement sans préavis et même d'ailleurs des explications n'en donne pas?
Je crois que le directeur de publication et l'homme sait très bien que lui et moi et nous, en tant qu'organisation, nous en discutons quotidiennement sur cet aspect-là. Et c'est une préoccupation de l'heure pour nous parce que, vous savez, comme il vient de le dire, il n'y a pas une personne qui est épargnée. Quand vous voulez envoyer quelque chose à votre maman, à votre frère, à votre soeur, à une cousine, on vous demandera toujours des prélèvements. Et des fois, ça fait honte pour vous que vous envoyez 15 000 et que la personne dise que c'est 14 970 qu'elle a reçu. Et nous, au niveau, comme il a su bien dit tout à l'heure, au niveau de la CEP, quand nous avons fait une tournée tout récemment, tous les consommateurs qui ont pris part, et aussi bien que les conseils, que les maîtres qui ont pris part à cette sensibilisation, ont bel et bien martelé que nous n'en voulons pas. Et nous avons pris la parole au nom de ces participants pour dire aux représentants des deux opérateurs, des opérateurs particulièrement de Togocom, que nous ne voulons plus que vous continuiez à prélever. Maintenant, nous avons terminé la mission le vendredi dernier, et quand la rumeur a circulé qu'ils ont dit que le dépôt est à zéro franc, on a appelé nos comptables qui nous ont dit, à l'heure où nous les appelons, qu'il n'y a aucun communiqué officiel qui sort de leur direction pour dire que le dépôt est gratuit. Maintenant, dans les promesses qu'ils ont eu à faire tout au long de la tournée, ils ont dit qu'eux, ils vont rendre compte à leur hiérarchie, quant à la hiérarchie, de prendre la décision adéquate. Nous continuons toujours à demander qu'on annule ces frais indûment prélevés parce que ça ne vaut pas la peine que ce soit ainsi. En réalité, même les 100 francs que nous déposons dans les banques, quand nous voulons déposer l'argent, ne devaient plus être déposés parce qu'on ne devait plus les prendre. Quand vous déposez l'argent, ça constitue une ressource pour la banque. La banque va tourner sur cette ressource-là. Donc, on ne peut plus vous demander encore de payer quand vous déposez. Alors que chaque jour, on vous prélève à la fin du mois des agios et donc des frais de tenue de compte, tout ça là. On peut pas, chaque fois où nous on fait une opération, on nous demande de l'argent, et chaque fois où eux ils font des opérations, ils ne veulent pas nous récompenser. Et donc c'est une grave violation en ce sens.
C'est une grave violation en ce sens. Il est très important quand même que des actions soient menées pour que les populations soient soulagées sur ce point. Alors, nous avons invité pour cette question surtout de riz avarié déversé à Gouet-Légouacito. Et vous, en tant que LCT, organisation justement à l'ordre défenseur des consommateurs, vous avez fait une investigation, vous êtes parti sur le terrain concrètement, puisque nous avons vu les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé?
Merci pour la préoccupation. Je voudrais aller étape par étape, sauf qu'on n'a pas assez de temps.
Tout à fait.
Je voudrais aussi dire à tous ceux qui nous suivent, aussi bien en direct comme sur les réseaux sociaux, que la vidéo qui a circulé est vraiment tournée au Togo. Ensuite, parce qu'il arrive des fois où certaines vidéos circulent, on se pose la question si c'est au Togo,
si
parce
au Togo,
que
voilà.
Les conditions géographiques sont pratiquement les mêmes dans la Afrique.
Mais puisqu'il y a un communiqué même d'ailleurs de trois ministères qui ont témoigné.
Et donc, c'est au Togo et particulièrement dans la commune d'Aguagny V2. Nous avons été le premier jour, quand nous avons fini de lancer un appel à témoigner, parce qu'on s'est rendu compte que dans des pareilles situations, les gens vont faire disparaître les pistes. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé un appel à témoins et les gens ont répondu favorablement à notre appel à témoins qui ont témoigné que nous connaissons la société, c'est tel. Et donc, sur la base de ça.
Et finalement, c'est quelle société?
Oui, c'est une société de la brasserie, de la place qui allait déposer.
Donc, on connaît bien la société aujourd'hui, c'est la brasserie.
Il y a plusieurs. Oui, mais quand on dit la brasserie, il y a deux brasseries au Togo.
Tout à
mais si ça ne concerne pas l'huile, que l'huile se prononce que ce n'est pas moi.
Les
Togolais se rendent compte que.
Tout à fait. Parce qu'on parle plus alors de aujourd'hui
oui.
Pratiquement 200 tonnes de riz.
Oui. Au fait, quand je reprends tout à l'heure à la préoccupation, les ministres, nous on a fait sortir un communiqué tout à l'heure avant que je vienne sur le plateau, où on disait que les autorités, bien les ministres ont fait sortir un communiqué. Nous avons pris note de leur communiqué, on a pris acte de leur communiqué. Sauf qu'on déplore qu'ils n'ont pas eu assez de courage pour aller jusqu'au bout pour nous dire la société qui a déversé le riz.
Tout à fait.
Parce que l'entrepôt est géré par la commune d'Aguagny V2. Il y a un gardien sur l'entrepôt. Et dans les informations que nous avons reçues, c'est que quand le stock est arrivé, il y avait deux éléments qui ont accompagné le stock. Et quand ils avaient voulu déverser le produit sur le dépotoir, ils ont constaté qu'il y a un caterpillar qui était en train de prendre des poubelles et tout de suite pour mettre dans les camions pour qu'on les déverse dans la décharge finale. Et juste le temps qu'on attende pour déverser le produit et l'incinérer ainsi de selon ce leur dit, ils ont constaté une ruée des populations sur le stock. Et les gens sont venus, d'autres ont pris des sacs, d'autres ont pris des demi-sacs, ils ont rué sur le stock, ils sont partis.
Mais est-ce qu'ils ont l'habitude?
Nous, on dit, il y a un gardien sur le site.
Oui.
Et on a appris dans nos investigations qu'il aurait un huissier qui les avait accompagnés. Alors que les officiers de justice savent que dans de pareils cas, il faut suivre des voies. C'est le ministère du Commerce
qui a l'autorisation de, d'autoriser bien la, la mission d'autoriser les gens à incinérer des produits. Parce que c'est le ministère en charge de, du commerce qui constate que le produit a avarié officiellement ou non. Ou bien, peut-être ça peut concerner le ministère de la Santé, ça dépend. Mais dans le cas spécifique, c'est le ministère du Commerce. Et donc, comme ça n'a pas été fait, on a les agents ainsi que les gardiens sur le site, on estime et les informations qu'on a reçues, la société, elle est bel et bien connue. Et on nous a dit, dans les informations reçues, que c'est une société brassicole. Et donc, pour cette raison que nous voulons dire aux autorités, aux trois ministres, Commerce, Sécurité et Santé, que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. C'est un sujet de santé publique.
Tout à fait.
Et nous voulons qu'ils puissent revenir dans un autre communiqué pour nous dire « Ah, à la suite de nos investigations, nous sommes tombés sur telle société. » Et que cette société puisse prendre son courage pour dire « Ah, aux chers consommateurs, nous avons voulu incinérer, mais il y a eu des erreurs que nous avons reconnues. » Maintenant, nous, au niveau des associations consommateurs, particulièrement au niveau de la RCT, nous demandons des demandes d'intérêt. Parce que, vous savez, quand on va toujours nous taire, ou bien se taire, et ne rien dire, ne rien faire, ça veut dire que ces sociétés-là vont se dire des sociétés intimidantes, intouchables, ainsi de suite. Moi, je sais, si ceux qui nous poursuivent nous tuent, nous, on va mourir. mais demain, ils aussi mourront. Ça, c'est le principe de la vie. Donc c'est pour cette raison que nous disons que quand ça concerne la santé des Togolais là, oui, nous allons le dénoncer jusqu'à la moelle.
D'accord. Magula?
Oui, je crois que c'est le sujet de l'heure.
Tout à fait.
Parce qu'il est beaucoup plus question de la santé publique.
Tout à fait.
Et effectivement, comme docteur Sogadi venait de le dire, nous également au journal Flambeau des Démocrates, on avait déjà l'information. Que c'est une société de la brasserie.
C'est une société de la brasserie, vous le dites, mais c'est
vrai. Vous savez, l'ONU encourage les journalistes à être des lanceurs d'alerte. Sauf que la réalité chez nous, c'est que quand un journaliste veut lancer l'alerte, on le prend en victime. C'est-à-dire, on fait de lui une victime finalement. Et sinon, on a le nom. On a le nom.
Mais donnons le nom.
Et hier, même si vous voulez des informations supplémentaires, hier, il y a eu une grande réunion qui a rassemblé et les dignitaires justement de la brasserie et la commune. Mais la réalité, c'est que la brasserie sort l'argument selon lequel ils détiennent une autorisation de décharge. Mais sauf que cette autorisation date du temps de l'amiral Fogan Adignon était aux affaires en tant que président de la délégation spéciale de la commune de la ville de Lomé. Et donc, ça date. Voyez-vous, ça date. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a également les cadres du ministère du Commerce qui ont également assisté à cette réunion. C'est pour dire aujourd'hui que les autorités sont au courant. On sait quelle structure, quelle société a déchargé là-bas. Mais sauf que ce n'est pas la décharge qui pose problème. Le vrai problème, c'est que dans les circonstances pareilles, on sait comment on procède.
Tout à fait, c'est ça.
Soit vous creusez un trou, vous déversez le produit avarié là-dedans et vous incinérez, ou alors vous remblayez. Ou alors, comme c'est à base soit du maïs ou du riz qu'on fabrique de la bière, que nous buvons, mais dans le cas pareil, par exemple, on peut moudre le riz avarié pour que ça devienne de la poudre. Et c'est plus facile à faire disparaître. Sauf que la société a ignoré tout ceci. Et aujourd'hui, nous avons vu cette ruée des populations vers ce produit toxique. Et donc, je l'ai dit, il y a un communiqué du gouvernement qu'on a tous lu. Mais ce n'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, ils savent qu'on sait. Qu'ils savent. Maintenant qu'ils aient aussi le courage de dire non.
Pascal, si tu permets. Oui. Quand on est allé sur le terrain, il y a un monsieur qui nous a dit: moi, j'ai pris dans le stock de samedi. Donc, j'en ai mangé avec ma famille.
Donc, il y a des stocks.
Malheureusement, que je n'étais pas au courant du stock de lundi. Ça veut dire que quoi? Le déversement se faisait depuis. Des gens venaient prendre sans que nous, vous et nous, on ne soit jamais informés.
Donc, s'il était informé du stock
de... Il allait prendre. Quand il va encore constater notre déversement aujourd'hui, il ira encore prendre.
Alors, ouais, Ambrose, comment c'est compliqué? Oui, c'est compliqué. Ambrose, c'est vrai que avec ceux qui sont partis pour faire des investigations, quand ils sont partis, finalement, il n'y a même plus un seul grain de riz. Ça veut dire que ben, les populations, à un moment donné, bien qu'on leur dit que c'est avarié, c'est impropre à la santé, mais des gens sont partis quand même chercher cela.
Ça qui fait triste. C'est-à-dire, l'aspect société qui a déversé ne me préoccupe plus. Beaucoup en ont déjà soulevé. Et les noms, certainement les noms viendront, parce qu'il y a deux sociétés au Togo, et que à mon humble avis, il va falloir sortir le nom d'une société pour éviter que l'autre aussi soit entaché.
Il faut que l'autre se prononce que c'est un pas.
Voilà.
Nous, on a fait notre.
Maintenant.
Il faut que eux aussi se défendent.
L'autre aspect qui est très important, ça démontre combien de fois il y a la faim au Togo. Mon frère, on dit qu'on a déversé un produit avarié sur les dépotoirs. Togolais, va chercher ça pour manger. Ça dit que quand j'ai appris ça, c'est Daddy Lé, j'ai vu, moi je ne savais rien. C'est la vidéo de Daddy Lé que j'ai suivi. J'ai dit, mais comme c'est, si c'est elle, c'est sérieux. Mais Pascal, il faut mesurer le degré de faim, de
misère
que le Togolais est en train de vivre. Et le monsieur, il a été honnête. Il dit même, s'il savait que ça est encore dépassé, il viendrait prendre. Moi, nous on savait, bon, je vais être à ce côté-là. Par rapport à la fabrication de la bière, puisque ça a été toujours comme ça. Mais je crois fondamentalement que les autorités togolaises doivent réfléchir à cela. Si les citoyens, ceux que vous gouvernez, vont sur les dépotoirs pour manger, donc il faut leur trouver une place pour les chiens. Parce que c'est les chiens qui se retrouvent en principe sur un dépotoir. Mais si l'humain que vous êtes censé gouverner se retrouve là-bas, mais il y a péril en la demeure. Moi, j'ai été vraiment effaré, j'ai été vraiment troublé. En voyant ça, c'est-à-dire que en voyant le riz, les gens ne pensent pas que c'est un riz vraiment qui n'est pas propre à la consommation. Parce qu'on trouve le riz que c'est un peu propre.
C'est présentable.
Mais voilà. au fond, les gens vont avoir des problèmes après.
Voilà.
Et le pire, c'est que quelqu'un d'autre dise, mais si je mange déjà faim, je sais que je vais mourir. Eh? Si je mange, je meurs, c'est mieux que je vais d'avoir faim pour mourir.
D'accord. Alors, Michel, est-ce que vous avez été surpris du fait que les populations se sont ruées sur ce riz, parce que est-ce que c'est pas un fait normal? C'est-à-dire, on a vu du riz, on veut...
C'est normal qu'on va, Pascal.
Quand tu dis, si j'ai été surpris, je sais pas, tu veux que je te donne quelque chose. Bon, les dépotoirs, généralement, comme on le disait, c'est pour les chiens et des chercheurs. Bon, entre griffes, quoi. Les chercheurs, ouais, ceux qui sont... Ouais. Voilà. Mais quand j'ai vu la population, quand j'ai vu... Et j'ai pris encore le temps, j'ai éteint la vidéo, j'ai pris encore le temps d'allumer pour voir, et si réellement c'est au Togo, parce que, comme on le disait, il y a des images qu'on traficote bon, avec la technologie. Mais moi, ça ne m'a pas surpris, parce que les Togolais ont fait ça. Faut être malhonnête pour le nier. Les Togolais ont faim. Si le débat même s'est invité
jusqu'à ce point, sur un dépotoir.
Oui. Mais les gens, bon, en temps ordinaire, moi, je ne suis pas très loin de la zone. Il y a des dépotoirs où parfois je marche pour aller voir les gens. Il y a des gens qui viennent chercher les tomates, les oignons au dépotoir pour aller manger.
Comment ça?
Ah oui. Et on observe, on regarde les véhicules, parce qu'il y a certains, les véhicules de décharge là. On regarde d'où viennent les véhicules. S'ils viennent d'un quartier, je ne vais pas donner le nom d'un quartier, on sait qui vivent, quels sont ceux qui vivent là-bas. Et la décharge doit être très intéressante. Il y a des tomates, des oignons, des piments parfois, du charbon, que les gens viennent chercher.
Mais quand on déverse la chose déjà sur un dépotoir,
cette fois-ci, oui, c'est que je disais ce que tu m'as coupé. Je disais que si le débat de la misère s'est invité à la table du CPC,
du CPC, voilà.
Oui, vous allez comprendre que si les acteurs politiques même se sont appropriés ce débat, c'est pour voir, pour vous dire que ça nous sommes arrivés à un niveau donné. Et ça ne dit rien à personne. Et l'environnement international, vous écoutez les informations comme nous tous,
les choses vont être encore beaucoup plus difficiles. Je ne veux pas être un oiseau de... Mais la situation doit encore beaucoup plus difficile vers devant. Et donc, Ambroise disait que, bon, lui, ce n'est pas ceux qui ont déchargé qui le brûlent, c'est la misère. Mon frère, les deux aspects nous intéressent. Les deux aspects.
Non, mais c'est pas que je ne connais pas.
La misère, elle est là. Mais au point où les gens sont allés prendre du riz, et puis le danger, c'est que ce riz-là, peut-être, ce que, il est vendu à côté de nous ici. Hein. Peut-être qu'il est déjà arrivé à côté de nous ici.
Dans les marchés.
Donc, c'est vraiment, quand j'ai lu le communiqué du gouvernement, j'ai dit, mais non, il reste quelque chose.
Comme quoi?
Non, il reste beaucoup de choses dans le communiqué. On a omis ou bien, c'est pas bon. Sinon, il y a des choses qui manquent. Mais si aujourd'hui, le gouvernement lui-même ne veut pas être courageux pour dire que c'est telle société qui a fait ceci.
Oui, en réalité.
Mais regardez, j'ai écouté les confrères, les gens, les gens bégayaient un peu en parlant.
Ils ont minimisé la situation?
Non, ça veut dire que on sciemment, parce que tu sais quel soutien je sais, mais on ne veut pas le dire. Mais c'est ce que nous protège, ceux qui sont censés nous protéger, ils ont le pouvoir, c'est à eux de dire ça.
Ils savent.
D'accord. Ils savent.
Ok.
Mais si on ne le dit pas, ça veut dire que ce pays-là, franchement, eh bien, il faut qu'on aille revenir encore. Ouais,
d'accord.
Okay. Oui.
Okay.
Parce que c'est extrêmement dangereux qu'on recule devant une seule société. Qu'on recule.
Non.
Le gouvernement n'est pas en courage. C'est vraiment parce que quelqu'un le disait ici, ce genre d'opération nécessite un circuit, un processus donné.
C'est ça.
Tout a été violé sur toute la ligne. Tout a été violé.
D'accord.
Au point où les populations sont arrivées à s'accaparer du produit.
Elles sont
bagarrées. D'accord. Oui, mais Jean, aujourd'hui, c'est vrai que c'est déjà gâté, comme on le dit. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que nous tous nous posons. Tu sais, Pascal, j'ai tantôt dit en début d'émission que la société togolaise, elle est malade. Quand on écoute ce qui est arrivé là, est-ce que c'est concevable dans un pays normal? Un pays qui se dit état de droit, ou un état fort, F-O-R-T. C'est la question que je me pose. Il y a tellement de légèreté dans cette affaire. Quand on banalise la santé des populations, j'ai tantôt dit ici que nous avons des textes qui sont bien écrits, mais on ne donne pas force à nos textes. On a un texte, on sait comment il faut procéder lorsqu'il y a ces cas de situation. Mais qu'est-ce qui a été fait? Comme Michel a dit, on a violé, on s'est dit, bon, laissons passer, c'est dans une zone un peu reculée, bon, on va gérer ça comme ça. Mais serait dans d'autres pays, mais actuellement, la société là serait sous les feux des projecteurs, il y aurait des démissions en cascade. Elle va s'expliquer, présenter des excuses publiques.
Et
payer des dommages et intérêts. Mais comme nous sommes au Togo, comme on le dit, on gère comme on le dit. Deuxième aspect, quelqu'un l'a tantôt évoqué, c'est un indicateur de la pauvreté et de la misère ambiante que nous vivons. Quand moi j'ai eu cette vidéo, vous savez à quoi ça m'a fait penser?
Non.
Les Misérables de Victor Hugo. Je me dis, si on est en pleine ville, on est en pleine ville,
en pleine capitale,
et les gens se sont rués pour du riz comme ça. On n'est pas encore dans un village, hein. C'est-à-dire dans les zones reculées, nous avons d'abord la pauvreté à l'extrême. Mais nous sommes dans le faubourg de Lomé. Et qu'on arrive à ce stade-là, et où les gens sont obligés de reluquer des dépotoirs. Ils savent bien, parce que ce qu'on met au dépotoir, c'est que c'est impropre à la santé.
Tout à fait.
Ce n'est pas que sa population ne sait pas. Mais elles sont parties de l'emprise. C'est que le degré de pauvreté est arrivé à un niveau où, si on n'y prend garde, on va toujours se tromper avec les scores qu'on nous donne, les rapports qu'on nous donne. Mais la réalité, elle est là. Toujours nous le disons.
D'accord. Merci beaucoup, Jean. Merci. Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il y a de la légèreté dans cette affaire?
Vous savez, comme mes confrères l'ont dit, par exemple, le communiqué n'est pas tout à fait exhaustif. Du moment où une réunion s'est déroulée hier dans un cabinet ministériel, à la fin de la réunion, il devrait y avoir un compte-rendu. Et le compte-rendu, justement, doit être contenu dans un communiqué officiel. qui plus est signé de trois ministères, à savoir commerce, santé et sécurité. D'accord ? Sécurité, protection civile, je veux dire. Mais ces trois ministères, justement, juste larguent un communiqué qui n'est pas du tout exhaustif. Premier point. Mais dans le communiqué de notre ami président de la LCT, il a aussi parlé d'une société brassicole, sans citer le nom. On est d'accord.
Oui.
Pourtant, les représentants de cette société étaient au ministère du Commerce hier, au vu aussi de tout le monde. Ils ont parlé, ils n'étaient pas invisibles. Voilà, c'est une invitation qui a été adressée à la société, qui est arrivée avec des représentants. C'était des gens qui étaient là, bien visibles. Ils ont parlé en même responsable. Et ça s'est arrêté là. Aujourd'hui, on condamne, on dit que oui, on condamne les populations qui sont allées chercher ce riz, mais on ne condamne pas la société qui a déversé ce riz. C'est ça le problème. Mais pourquoi est-ce qu'on doit condamner ceux qui sont allés chercher? Mais c'est celui qui est venu mettre l'arme là-bas pour que ça tue qu'on doit prendre d'abord. Parce que c'est prémédité. Même si vous avez une autorisation de décharge, mais la procédure voudrait que si vous avez une cargaison qui a varié, vous connaissez la procédure, vous saisissez les autorités compétentes, vous dites que par exemple, pour des raisons, voilà, nous avons telle cargaison avariée. On vous délègue des services compétents qui procèdent justement à l'incinération de ces produits dans un trou, comme ça se fait, et pour que ça ne soit pas une marchandise qui rentre après dans le circuit alimentaire ou dans le circuit de commerce.
Oui.
Et là, au-dessus de tout le monde, mais c'est quand même bizarre que cette société aujourd'hui, que tout le monde connaît, fasse preuve d'autant de légèreté. Surtout qu'en matière d'environnement, elle crie beaucoup, qu'elle met beaucoup de milliards dans ce pays. En matière d'environnement.
Je n'ai jamais eu un million.
En matière
d'environnement. Tout le tintamarre que je fais dans ce pays, ils jettent l'argent où?
Donc, ils sont en train de payer du riz chez les consommateurs, les producteurs locaux. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, qu'ils sont en train. Ils réservent, au lieu d'importer tout le temps, ils ont réservé une partie, justement, à l'achat de riz auprès des producteurs locaux. Et derrière. S'ils font ça, si cette société fait ça, avec les milliards qu'ils investissent dans la sécurité, l'environnement, mais c'est quand même grave.
D'accord.
Donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, il va falloir que, soit, on trouve des solutions, hein,
oui.
Des solutions classiques. Si le dépotoir en question est un dépotoir sauvage, qu'on le ferme. Que ça, c'est la mairie qui doit s'en occuper.
Tout à fait.
Golf 2, je crois.
Aguanibé
2, voilà.
C'est chez le maire, Kofi Bollor.
Voilà. Soit on ferme la décharge en question, parce que c'est
une
décharge...
En pleine ville. Hein.
Voilà, sauvage.
Les habitations, les écoles.
Et soit on ferme la décharge en question pour qu'il n'y ait plus de déversement, puisque c'est la deuxième fois où, je ne sais pas, la énième fois qu'on vient déverser ce riz là-bas. Et ensuite, on trouve des solutions en disant maintenant à la société.
D'accord.
De venir auprès de la mairie,
okay.
Discuter et avoir de nouvelles autorisations. Sinon, de dire que si vous avez à la prochaine occasion, ou d'avoir de les sanctionner sur ce coup, et à la prochaine occasion
merci.
De pouvoir leur
confier. Merci beaucoup, Elom. Je voudrais qu'on dise un mot sur cette affaire alors de violence au niveau, enfin, déjà le dimanche passé. Je sais que beaucoup de journaux sont revenus sur le sujet. Il y a le journal Flambeau des démocrates qui est revenu sur le sujet, a fait Guy Marus Sagna pas digne de nous. C'est ce que Flambeau des démocrates a écrit. Alors, autre journal, c'est Canal D. Canal D qui écrit à la une Togo, agression du député Guy Marus Sagna et des journalistes. Le retour des vieux démons, s'interroge bien sûr le journal. Vague de condamnation, le panafricanisme à rude épreuve, une enquête est ouverte. Autre journal, c'est des Guardians. Des Guardians qui écrit agression violente et barbare contre Guy Marus Sagna d'opposants et de journalistes. Le gouvernement s'embrouille dans le mensonge. La police se mélange les pédales. Autre journal, c'est Le Changement. Le journal Le Changement qui écrit Togo, terreur et grand banditisme. Les nervis ont repris du service. Réaction du député sénégalais agressé. Et c'est ce que le journal Le Changement a écrit. Autre journal, c'est Ouara les vainqueurs. Ouara les vainqueurs qui écrit déjà agression du député Guy Marus Sagna à Lomé. La police togolaise situe l'opinion. Alors, je voudrais quand même qu'on se prononce là-dessus avec 30 secondes chacun. 30 secondes. Michel, là, vous nous écrivez qu'il y a la police qui situe alors l'opinion.
Ah oui, je pense que elle en a les moins. Elle a d'abord condamné l'agression avant de décrire un constat que les circonstances dans lesquelles l'incident s'est produit. Je pense que quand l'incident s'est produit, après, les gens allaient dans tous les sens, les gens faisaient des commentaires comme bon les semble. Il fallait quand même, il a fallu la sortie de la police pour que les gens quand même aient une opinion. C'est ce que nous avons essayé de...
Mais Michel parlait déjà d'incident, est-ce que ce n'est pas minimiser le fait?
Non, c'est un incident après tout.
D'accord.
C'est un incident, quoi qu'on dise.
Ok. Bangla?
Oui, non, mais comme nous l'avons écrit...
Dites que ce n'est pas digne de nous.
Ce n'est pas digne de nous. Parce que nous, on se dit, mais on aurait pu laisser le monsieur faire sa rencontre. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il dira qu'on n'a jamais entendu au Togo? Qu'est-ce qu'il fera que les acteurs politiques de la société civile n'ont jamais fait? On aurait laissé le monsieur faire ce qu'il avait à faire sur peut-être une heure de temps, deux heures de temps, et que c'est fini. Mais quand on l'avait empêché, c'est un peu comme la caricature, c'est-à-dire qu'à force de compresser la bouteille, elle finit par s'exploser. On a empêché le monsieur, mais quand il est parti, vous avez vu sa sortie hier. En tant que Togolais, j'étais fouetté dans mon orgueil d'être Togolais. Quand il parlait avec des termes tout crus de mon pays, j'ai dit... On méritait mieux.
Puisque, rappelons qu'il a organisé une conférence de presse à Dakar.
Ah oui, devant la presse nationale et internationale, il parlait du Togo. C'est vrai que je sais à peu près comment ça marche un peu dans... Mais dire que c'est un étranger, on donne l'occasion ou le bâton à un étranger de nous battre comme ça, de nous fouetter comme ça jusqu'à dans notre amour propre. J'étais scandalisé, j'ai dit, on méritait mieux que ça. Et c'est pour ça. On nous dit, la police, par exemple, Michel parlait que la police a situé l'opinion. Mais moi, je me dis, la police a lancé même un appel à des gens d'apporter des preuves, machin, pour les aider à mieux situer l'opinion. Mais je dis, ça là, on doit chercher ces messieurs ou ces dames, je ne sais pas. Parce que après ce qui s'était passé en 2017, nul n'a jamais cru qu'on aurait encore assisté à ça. Et donc, il faut démasquer ces gens-là, les punir pour les dissuader d'éventuels individus qui voudront vraiment salir le nom du Togo.
D'accord. Ambrose, vous pensez que le gouvernement s'embrouille hein, dans cette question. Vous dites, vous écrivez que le gouvernement s'embrouille dans le mensonge et la police se mélange les pédales.
Oui, le gouvernement s'embrouille dans le mensonge. Je n'invente rien. Vous avez suivi Madame Cuigan dans ses premières déclarations. Sur laquelle elle n'est plus revenue, qui estime que ce sont les militants, sans qu'une enquête ne soit ouverte, ni par la police, ni par le procureur de la République, ni par la justice, la dame déclare que c'est les militants même qui se sont affrontés.
C'est une bagarre qui s'est éclatée.
C'est extrêmement grave. Ça, c'est un de deux. La police qui est censée être au-dessus de la mêlée, et qui a des grands agents de renseignement chez nous, et se mélange aussi, parce qu'entre-temps, la police dit qu'il semble que la manifestation a été interdite. Maintenant, la police dit qu'il pouvait quand même venir chercher comment on appelle, les éléments pour pouvoir sécuriser la manifestation. C'est une contradiction. Le pire dans tout ça, en la forme, c'est que la police s'est trompée de lieu dans son communiqué. La manifestation ou la réunion ne s'est jamais déroulée à Kassimessi. C'est pas à Hankopé, c'est à Bé. Là, je suis tombé sur la tête, quoi. Je ne sais pas si c'est la nuit, ils ont écrit, ou c'est la minuit, et ils se sont précipités pour écrire sans tenir compte de ça.
D'accord.
Et donc, il suffit qu'on dise qu'il faut rapidement écrire quelque chose pour calmer les adhérents. Les réseaux sociaux étaient envahis. Et donc, moi, je me dis que, Maura a dit, toi, tu dis, hein. C'est-à-dire que c'est la nuit du Togo qui est actuellement à l'extérieur. Actuellement, ça n'est pas encore fini, hein. Va sur les réseaux sociaux, tu vas lire.
D'accord, ok.
Et quand tu fouilles même avec les revues de presse dans tous les pays, en Afrique, C'est triste.
D'accord. Et là, quelle appréciation faites alors de cet événement malheureux?
Non, c'est déplorable. Il faut condamner la violence sous toutes ses formes, vous comprenez? Parce que justement.
Surtout que des confrères également, journalistes, en étaient victimes.
Oui, j'en viens. Parce que justement, ce qui s'est passé, c'est pas bien, c'est pas digne, c'est pas honorable. Vous comprenez, c'est pas honorable, ça fait pas honneur au pays. Mais moi, il y a un aspect qui m'intéresse, c'est la question de nos confrères qui ont été tabassés, dont les matériels ont été retirés, etc. Je vois pas pourquoi ils doivent faire les frais de tout cela. Ce n'est pas correct. Et donc, le journaliste, dans sa mission de recherche de l'information, ne doit pas quand même être vilipendé, tabassé comme un bandit, un individu qui, justement, aujourd'hui, sont recherchés. Vous comprenez? Parce que là, quand le député en question Il y a une phrase, une réponse qui m'a intrigué. Il a dit à la presse là-bas que les journalistes togolais ne font pas bien leur travail. Est-ce qu'ils ont vu justement une autorisation, enfin, une lettre d'interdiction de la manifestation? Est-ce qu'ils ont vu ceci? Est-ce qu'ils ont vu cela? Que c'est à eux de faire la recherche de l'information? C'est le même député qui a dit dans sa conférence de presse hier que le Parlement de la CEDEAO, le bureau, l'avait invité.
Tout à fait.
Pour lui lire un courrier du ministère de l'administration territoriale interdisant la réunion. Mais finalement, il nous prend pour qui, nous? Franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous inviter. Vous lire un courrier du ministre de l'administration territoriale qui porte interdiction de la réunion, qui n'était pas autorisé. Et vous venez dire aux journalistes présents, est-ce qu'eux, ils ont vu un courrier d'interdiction de la manifestation? Pourtant, on vous l'a lu. Et c'est pour ça qu'ils ont posé la question. Il semblerait, puisque c'était pas... il semblerait, ça ne veut pas dire que c'est confirmé, qu'il semblerait, puisqu'on n'a pas encore le courrier. Mais vous-même, vous dites qu'on vous a lu le courrier au bureau du Parlement qui vous a invité dans le cadre d'une session. Finalement, franchement, je crois que notre...
Sauf que là où le problème se pose là-bas, la manifestation n'a pas été organisée par Guimari Sagna. Sagna a été invité.
Effectivement.
Et donc c'est la DMP à qui le ministère devait avoir envoyé le courrier. Pourquoi ils n'ont pas envoyé un courrier?
Non, mais
comme ils le font habituellement.
Oui, le courrier a été envoyé plutôt au Parlement de la CEDEAO.
Ce n'est pas le Parlement qui organise la manifestation.
Mais puisqu'il fait partie aussi.
Non. Lui est invité. Le gouvernement a fait le faux fuyant. Ils ont fait le faux fuyant parce qu'ils savent qu'en adressant un courrier à la DMP, ils sont déjà
en expulsion. Jean, rapidement.
Pour reprendre là où l'homme a chuté, en fait, selon les dires de Guy Marie Sagna, le courrier du gouvernement était adressé au Parlement de la CEDEAO.
Tout à fait. Bureau
pour signifier au bureau que la réunion est interdite.
Tout à fait.
Ce n'est pas le courrier interdisant. Le courrier n'est pas adressé à la DMP.
Voilà.
Effectivement.
Le courrier, c'est ça. C'est ce que je dis.
Ce qui fait que la DMP affirme n'avoir pas reçu de courrier officiel stipulant que la réunion ne peut pas avoir
lieu. Oui, ça aussi, c'est
ça. Laissez-moi aussi en deux minutes.
Non,
il faut
pas
juste
une minute.
Juste. Non, vous avez parlé, je dois parler. Il faut juste dire que cet acte auquel nous avons assisté n'est pas digne de notre pays, parce que ça nous ramène aux années sombres de la démocratie, au moment où les gens ont des instincts précaires, grégaires, où la pensée unique, je veux dire, prédominait, où on ne veut pas que les gens puissent s'exprimer. Guy-Marie Sagna, je termine, est un parlementaire de la CEDEAO. Et selon les textes de la CEDEAO, le protocole additif au renforcement des institutions de la CEDEAO, il a le droit de s'exprimer. Et on ne peut pas nous violer.
Merci beaucoup, Jean. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Allô?
Allô?
Décidément, il n'a pas de retour. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien, chef.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
Oui, allez-y.
Oui. Bon, on peut aller essayer de chercher dans le dictionnaire ce que c'est que les milices. Hein. Je crois savoir que c'est des corps paramilitaires qui consistent dans certains partis totalitaires des forces de recours ou bien dans certains partis, dans certains pays dictatoriaux. Hein. C'est les recours, ils sont paramilitaires, ils ne sont pas officiels. Donc, on comprend que les braquages, tout ça là, c'est des pistes. Déjà, ces gens-là, façon dont ils opèrent, sans trace. Vous avez vu, même ils ont attaqué même la fourgonnette d'OTR, entre-temps, à motivé, faisant un bébé mort. Vous voyez, c'est-à-dire, le pays là, ils sont vraiment en danger. Tellement dangereux. Donc imaginez qu'on puisse dire que, comme l'a dit Ambroise, hein, on se trompe de lieu, on se dit que peut-être c'était des communiqués écrits avant l'attaque du siège de la CDPA. Comment une police peut se tromper de lieu? Ça veut dire que c'est écrit, ils ne savent pas. Donc cette fourgonnette de la gendarmerie en patrouille a repéré leur site. Ah, ils sont ici, hein. C'est ce que nous comprenons. Et les gens sont venus, bastonnent les gens devant la gendarmerie. Et puis la gendarmerie ne dit rien. Bon, on ne peut pas s'en prendre aux gendarmes. Parce qu'ils aussi, s'ils rentrent là-bas, vous savez ce qui est arrivé au forestier, au péage, entre-temps, bien laissé par certains militaires.
D'accord.
Hein? Donc nous sommes dans un pays, même l'arrêt même est en danger.
D'accord.
Hein? On ne peut pas parler même de Madjouba qui a assassiné même au camp.
Oh, ok,
mais. Donc nous sommes en danger.
D'accord, merci M. Niamavo pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour? Allô? Décidément, il n'est pas en ligne. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Votre nom, c'est?
Ah, c'est Ouyao.
Ah, monsieur Ouyao, depuis l'UNOAPE, allez-y.
Ah, vous avez dit que le rire qui est déversé à Douala, c'est quand?
Oui, c'est dans la nuit de dimanche à lundi, c'est bien.
Mais le samedi, je passais pour aller à Nuapé, mais j'ai mangé un riz cantonné vers par Sotobois là-bas. Certains disent qu'on déversait le riz depuis.
Vers Sotobois, vous dites?
Vers Sotobois, toujours à Gouet là-bas.
Ah, d'accord.
Mais vers les soeurs là. Mais j'ai mangé le riz là, j'ai pris le riz là, amené jusqu'à la maison, mangé avec mes mains. Donc ça veut dire que mon monsieur est en danger. Parce que le riz là aussi, quand je mangeais ça, je savais que c'est un riz, ça sent un peu mauvais comme ça là, donc j'ai mangé. Donc ça veut dire que même le ministre de la Sécurité, même là, ça veut dire qu'il ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail. Quand Yark était là, c'est pas ça. Lui, il a démissionné. Ça fait combien de sujets qu'il va faire les attaques sur ça? Ça fait combien de sujets de dimanche? Ça fait deux dimanches qu'il y a eu des attaques comme ça. C'est quelle histoire ça? Attends, je suis entendu aussi ça. Si c'est le dimanche, on a déversé le riz, donc je suis épargné. Mais si c'est, on déversait ça, ça veut dire que je suis dedans. Bonne émission à vous.
Merci beaucoup, monsieur Ouyao, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je fais que rire.
Votre nom, c'est?
Je fais que rire de tout, c'est ici.
Ah, madame ici.
Oui.
D'accord.
Bon. On a attaqué du monde parce que les gens sont réunis. Pascal.
Oui, madame, si, allez-y.
On est dans un pays. Ça dit que pour la conservation du pouvoir, on est prêt à tout ça là, des miliciens par-ci et tout. Moi, je veux dire que voilà quoi. Et maintenant, c'est le riz qu'on déverse pour les affamés. Tout ça nous a affamés. Hein? On nous a affamés. On nous a appauvris, on a pris tous nos biens, et puis voilà, on nous a déversé des riz comme ça. Tout ça, si ce n'est pas des riz de machin, c'est-à-dire qu'on peut savoir. On peut savoir avec ça aussi. Hein? On peut savoir avec. Et puis voilà, les gens ont tellement faim que voilà, ça se passe comme ça. Pour le Sénégalais qui a été lynché, moi je dis que. Il y a un complot international contre ce pays depuis la nuit des temps, que ces pays-là n'ont jamais levé le petit doigt, juste pour prendre un communiqué pour dire stop à notre, comment on dit ça, comment on nous piétine ici, et personne parmi ces pays-là n'a rien dit, hein, jusqu'à ce que ça arrive à un Sénégalais l'autre jour, et là c'est juste un petit de chat. Ils n'ont qu'à savoir que nous, on vit pire que ça. On vit l'enfer. Lui, il n'a goûté qu'à un petit de chat.
D'accord, merci. Okay. Merci, madame. Et si nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Oui, c'est Abdel.
Bien sûr.
D'accord.
C'est lui-même.
Abdel, allez-y.
Concernant le riz qui a été déversé.
Oui.
C'est l'occasion pour... nos ministres de faire la lumière. Et il ne sert à rien de cacher le nom de l'entreprise. Hein? Il y a un auditeur qui venait de dire que le ministre de la Sécurité ne fait pas son travail. Moi, je pense le contraire. Je pense que nous avons un très bon ministre de la Sécurité qui va faire la lumière, toute la lumière sur cette affaire, y compris sur l'affaire du Sénégalais qui a été molesté injustement. Mais quand j'y pense toujours, je me pose la question, quelle a été cette personne qui a donné l'ordre? Vraiment, la personne qui a donné l'ordre de faire ça a fait du mal à tous les Togolais. Un grand mal à tous les Togolais, y compris même le chef de l'État en premier. Parce que tout le travail que le chef de l'État fait ces derniers temps pour relever l'image du pays sur le plan international est tombé d'un seul coup, je vous assure. Est tombé d'un seul coup. Et je pense, connaissant bien le chef de l'État, que la lumière aussi sera faite. Et tous ceux qui ont été complices de cette affaire, qui ont participé à ce forfait-là, seront punis conformément au test de la République.
D'accord.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, Abdel. Abdel, vous êtes le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce jour. Chers confrères, nous revenons en studio pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce jour. Michel, vous avez écouté les uns les autres votre mot.
Non, je pense que je vais commencer par le premier point.
Très, très rapidement, puisque nous avons 30 secondes.
L'agression contre le député sénégalais, je pense que c'est condamnable. Et ça a été unanime. Ouais, même si c'était des chèvres qu'on avait bastonné, je pense que les écologistes allaient réagir. Ouais, donc,
les
êtres humains.
Les Greta Thunberg vont se créer ici.
On ne peut pas accepter qu'on tape une personne. Ça, c'est, on ne peut pas. Et vraiment, moi, vous avez vu même le communiqué de la police. La police, quand même, a condamné cette agression. Et le gouvernement même a condamné cela. Maintenant, on attend les enquêtes. Par rapport au tarif de Timoni, je pense que c'est vrai que ces derniers temps, Timoni a quand même sorti les prix et il a parlé de la diminution des prix, pas de l'enlèvement, comme le souhaite Elom et docteur Sogadji et nous tous ici, parce que au fait, si on enlève, on supprime carrément les frais là, donc ça va faire le bonheur de nous tous. Mais maintenant on dit on a revu à la baisse, ils ont revu à la baisse ces prix là, mais vivement, comme ils l'ont, le docteur Sogadji disait qu'ils ont dit se remettre à la hiérarchie. Je pense que dans les jours à venir, de bonnes décisions seront prises pour soulager les populations.
Merci. Jean.
Oui, je vais revenir sur l'agression dont a été victime le député sénégalais, mais également abonder sur le cas de nos confrères qui ont vraiment été agressés, dont les portables ont été récupérés, les outils de travaux détruits. Jusqu'à présent, on n'a pas eu ne serait-ce qu'un seul signal de la HAC qui est censé protéger nous les médias. On s'est plaint du député, tout le monde a compatible le député, et nos confrères qui ont été molestés, tabassés, et dont aujourd'hui ils n'ont plus de matériel de travail. Qu'est-ce qu'on en fait? Notre ministère de la Communication est là. On attend de voir. Sur les frais de Timoni, je vais conclure par là. Ce que relève le confrère, je comprends en partie. Ça nous rappelle au moment où Timon et Togokom avaient réduit les frais. Et certains dans les kiosques eux-mêmes imposaient aux clients de compléter avec 50 francs, 10 francs et tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que les frais de retrait ont diminué. Mais quand vous allez pour faire des dépôts, ce que l'on dit est vrai. Dans certains kiosques, on vous prélève, mais dans d'autres kiosques, on ne prélève rien. C'est pour ça que je dis, il faut que Togokom peut-être travaille avec ces kiosques-là. Parce que certains kiosques prélèvent indûment de l'argent. Moi, j'ai fait des dépôts en semaine,
d'accord.
Je n'ai pas été prélevé pour le dépôt. Donc, il faut dire qu'il y a certains kiosques qui imposent ça volontairement et d'autres kiosques ne le font pas.
D'accord, merci.
Donc, il faut rappeler les gens à l'ordre.
D'accord, merci. Et l'homme ?
Oui, bon, pour finir, en deux mots, le plaidoyer continue pour que définitivement les frais de dépôt soient annulés par Togo.
Supprimés totalement.
Oui, totalement, parce que c'est de l'argent perçu indûment. Ils n'ont jamais dit dans un communiqué qu'ils ont maintenant frappé les dépôts d'argent de taxes ou de frais. pour qu'on puisse en parler. Il faut que véritablement ils puissent faire la police derrière leurs opérateurs pour que ces frais perçus indûment soient purement et simplement annulés.
D'accord, merci beaucoup. Et l'homme, oui, Amras.
Oui, moi je voudrais revenir sur le cas de l'agression. Je m'aligne totalement sur ce que Madame Essie a dit, que les autorités essaient de revoir leur façon de gérer ce pays pour que le Togolais ne soit pas la risée de n'importe quel déconnard qui soit ailleurs. On n'a pas bonne image actuellement. C'est-à-dire que, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous arrive en termes d'esclavage dans ce pays, c'est vendu maintenant à l'extérieur.
D'accord.
C'est
alors, ça qui vous oui, Magla.
Non, moi, je vais finir par l'affaire du riz. Et je ne sais pas s'il y a une autorité de régulation du secteur de la brasserie, comme il y a ARCEP pour la télécommunication et tout. Mais je vais, s'il y en a, je les invite à s'inviter dans ce dossier et à amender lourdement cette structure-là pour qu'elle ne reprenne plus demain. Et avec l'argent-là, soit on construit une école pour la zone-là, le quartier, ou alors des centres sociaux éducatifs. Pour que demain, quand d'accord. les populations voient ça, que ce n'est pas l'erreur d'une association. Mais
merci beaucoup,
Magla.
Merci,
Magla.
Oui, docteur Emmanuel Sogadi.
Oui, je voudrais dire un sincère merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et en disant que l'affaire du riz, comme nous l'avons déjà dit, nous maintenons toujours notre pression. Et que les autorités qui ont déjà fait un communiqué conjoint puissent s'en rendre compte qu'elles ont oublié un certain élément dans ce communiqué. Et nous attendons que les sœurs qui vont suivre, qu'elles reviennent, c'est par les autorités, pour nous dire, pour nous donner le nom de la société. Et j'invite cette société-là, cette brasserie, en tant que, en matière de la responsabilité sociétale des entreprises, qu'elle puisse prendre son courage, faire un communiqué, ou bien organiser une conférence de presse, que nous reconnaissons qu'il y avait une erreur. Nous n'avons pas voulu que les gens viennent prendre pour consommer et par conséquent, nous présentons nos excuses à nos consommateurs.
D'accord.
Parce que nous ne sommes pas les consommateurs de ce riz,
oui.
mais nous sommes consommateurs de leur boisson.
D'accord.
Donc par conséquent, s'ils ne savent pas faire, ça veut dire qu'ils vont perdre assez de consommateurs.
D'accord, ok,
et
merci.
Donc, c'est pour les raisons que, les gens, que je voudrais attirer l'attention.
Merci beaucoup, docteur Emmanuel Sogadi. Vous êtes le président de la LTC, la Ligue Togolaise alors des consommateurs. Merci d'être passé dans cette émission. Merci Elom, Atisogbe, merci Ambroise, merci Magla, Jean-Paul Renier, merci Michel, merci à toi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous qui nous avez appelés aussi, merci à vous. Michel Tomega a assuré la mise en onde. Jérôme Dakuta était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.